Il est 19h, vous écoutez France Inter. Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Situation épidémique critique en France et dans les 19 départements soumis à de nouvelles mesures de confinement. Toujours plus de nouvelles admissions dans les services de réanimation. Les contrôles s'intensifient pour faire respecter les mesures de restriction. Ariane Grissel, dans un instant. Responsable, mais pas complice. Le rapport d'historien rendu hier sur le Rwanda pointe un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes, mais écarte toute complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Une journaliste de France 3 agressée ce matin sur un marché en Ardèche. La journaliste de France 3, frappée au visage, nez cassé, faisait un reportage en marge d'un rassemblement anti-masque. Dans ce journal également, la Birmanie et des informations très alarmantes. La répression meurtrière des manifestations se poursuit. Et puis notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma vie connectée de Christine Siméone à la bibliothèque numérique de Versailles. La météo, un dimanche anticyclonique et les températures printanières. Jean-Pierre Hameau à la fin de cette édition.
France Inter.
La vaccination 7 jours sur 7 va-t-elle permettre de faire baisser les contaminations et la nouvelle forme de l'épidémie de variant anglais? Cet après-midi, deux centres de vaccination des Hauts-de-France, à Abbeville dans la Somme et à Denain dans le Nord, ont dû fermer faute de doses de vaccins suffisantes. Face à une situation critique de l'épidémie et à un approvisionnement chaotique des doses de vaccins, le gouvernement annonce que 3 millions de doses de vaccins seront livrées dès la semaine prochaine. Dans le même temps, les contrôles s'intensifie ce week-end aux aéroports et aux péages routiers dans les départements soumis à de nouvelles mesures de confinement. À Paris, en Ile-de-France, 4500 policiers et gendarmes sont déployés pour faire respecter une application stricte des mesures et notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes. Reportage le long du canal Saint-Martin à Paris, Ariane Grissel.
Un ciel voilé, un petit vent frais, mais beaucoup de Parisiens assis côte à côte au bord du canal Saint-Martin.
Bon appétit, mais après remettez le masque. Merci beaucoup. Bonjour messieurs.
Bonjour.
La consommation d'alcool est interdite, vous savez?
Ouais, attendez, là on ne consomme plus.
Ok, bah allez jeter vos bouteilles s'il vous plaît.
Des groupes de 2 personnes, de 3, mais rarement plus, comme le constate le commissaire chargé de faire respecter les mesures.
La distance sociale est bien respectée. On a dû évancer quelques personnes qui commençaient à consommer de l'alcool. Les autres qui maintenaient leur consommation d'alcool, on procède à leur verbalisation. Mais ça reste anecdotique par rapport au volume de personnes qui respectent les règles aujourd'hui autour du canal Saint-Martin.
À ses côtés, des secouristes distribuent la fichette qui rappelle les gestes pour éviter la transmission du virus, comme à cette jeune fille rappelée à l'ordre sur le port du masque.
Tenez, pour votre information. Merci, bonne journée.
Ce sont les informations coronavirus des gestes barrières. Se laver les mains, tout ça éternuer dans son mouchoir, tout ça. On s'est mis volontairement à l'écart pour éviter qu'il y ait trop de monde. Bon, après, je comprends, hein, ce sont les règles, mais c'est vrai que confinement, on est quand même plus de...
Je sais pas combien on est.
Donc, ouais, non, c'est pas facile comme période. Hein.
Ce dispositif est maintenu tout le week-end jusqu'à 19h, heure à partir de laquelle policiers et gendarmes sont chargés de veiller au respect du couvre-feu.
Ariane Grissel, en Europe, en Serbie, des files de voitures se forment aux frontières du pays pour un week-end portes ouvertes aux vaccinations. Depuis hier et jusqu'à demain dimanche, la Serbie vaccine gratuitement et sans rendez-vous, y compris les citoyens étrangers. La Serbie, qui est l'un des pays d'Europe en tête pour la vaccination, propose des vaccins russes, chinois et le vaccin AstraZeneca. Mais depuis quelques jours, la vaccination ralentit. Les citoyens serbes semblent moins intéressés. Sur place à Belgrade, Laurent Rouy.
Depuis samedi matin, les routes frontalières pour entrer en Serbie sont bloquées par les embouteillages. Raison de la visite de ces touristes, la vaccination anti-Covid offerte à tous, mais ce week-end seulement. Ces vaccinations sans condition sont effectuées à Belgrade, au parc des expositions. De nombreux ressortissants des pays limitrophes mélangés aux Serbes font la queue sur place. Un Bosniaque rencontré au hasard affirme qu'en Bosnie, la pénurie des vaccins est telle qu'il faut attendre plusieurs mois avant d'obtenir le traitement. Parallèlement à cette vaccination populaire, la Chambre de commerce de Serbie a invité ses partenaires étrangers à se vacciner gratuitement ce week-end. 7500 entrepreneurs de Bosnie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Albanie et du Monténégro devraient normalement recevoir le précieux vaccin ce week-end. Depuis le début de sa campagne de vaccination, la Serbie, qui dispose de 4 vaccins en quantité, avait déjà offert des doses à quelques pays de la région. Mais c'est la première fois qu'une telle vaccination de masse a lieu dans le pays.
Laurent Ruy, à Belgrade, le rapport cinglant d'historiens sur le Rwanda provoque beaucoup de réactions au lendemain de sa publication. Ce rapport pointe un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes, mais écarte toute complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en avril 1994. Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française au Rwanda et vétéran de l'opération Turquoise, avait déjà témoigné dans son livre « Rwanda, la fin du silence ». Aujourd'hui, il estime que le rapport établit la responsabilité accablante de la France. On a protégé, dit-il, les génocidaires du Rwanda. Guillaume Ancel.
On n'aurait jamais dû s'installer au milieu des forces gouvernementales alors qu'elles étaient en train de commettre le génocide. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, l'Élysée peut dire qu'il n'était pas au courant. Mais tout le monde leur a dit parce que les soldats gouvernementaux s'en vantaient. Ils nous demandaient pourquoi on ne les aidait pas à terminer le travail. Ils avaient du sang jusqu'au cou. Donc comment on pouvait ignorer, comment on a pu faire l'autruche au point de ne pas comprendre que les gens que nous aidions étaient ceux qui commettaient le génocide. Quand les organisateurs du génocide sont aux mains de l'opération Turquoise, c'est-à-dire des militaires français, et qu'on demande de les arrêter, ce qui semble quand même normal, ils viennent de commettre un génocide, on reçoit l'ordre de les escorter pour qu'ils puissent s'enfuir au Zaïre et continuer leur combat. Donc on voit bien que cet aveuglement, malheureusement, il a été aussi partagé par les militaires, même si le rapport Duclair a établi, et c'était central, la responsabilité primaire du pouvoir politique de François Mitterrand et de son entourage dans cette affaire de soutien aux génocidaires du Rwanda.
Guillaume Ancel avec Augustin, arrivé à l'étranger, des informations très alarmantes nous parviennent de Birmanie. La répression des manifestations aujourd'hui a donné lieu à ce qu'on peut appeler un bain de sang. Selon des observateurs sur place, au moins 90 personnes ont été tuées à travers le pays. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Et les témoignages qui nous parviennent indiquent que personne n'est épargné, pas même les enfants.
Ce samedi a été la journée la plus sanglante depuis le putsch. Le 1er février dernier, ces 90 morts dont vous parliez ont été recensés par une ONG locale. L'ONU évoque pour l'instant des dizaines de tués, dont effectivement des enfants, ainsi que des centaines de blessés dans plusieurs villes du pays. C'est un nouveau palier dans la répression, dénoncent les Britanniques. L'armée tue des civils non armés, dont des enfants, condamne l'ambassade des États-Unis à Rangoon, quand celle de l'UE parle d'un jour de terreur et de déshonneur. Des photos de victimes en sang, d'exécutions circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce matin, l'armée birmane faisait en parallèle à ces massacres une présentation de sa toute-puissance, de sa force. Défilé militaire dans la capitale pour célébrer la résistance à l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. L'occasion de montrer ses milliers de soldats, ses chars, ses hélicoptères. L'occasion pour le chef de la junte d'associer les manifestants à des terroristes qui mettent en péril la nation. Ce sont désormais près de 420 personnes qui ont perdu la vie en deux mois en Birmanie en s'opposant au coup d'État.
Julie Pietri, merci.
France Inter. Frédéric Barrère.
Une journaliste de France 3 agressée ce matin sur un marché au Vence, en Ardèche, en marge d'un rassemblement anti-masque. La journaliste a été frappée au visage par un jeune homme visiblement excédé par la présence des médias. La journaliste de France 3, Auvergne-Rhône-Alpes, réalisait un reportage sur un marché une semaine après un rassemblement polémique, sans respect des gestes barrières, et alors qu'un nouveau rassemblement anti-masque et anti-restriction se déroulait à proximité. Un jeune homme s'est précipité sur la journaliste pour la frapper alors qu'elle était en train d'interroger des personnes au marché. L'agresseur a été interpellé, la journaliste a porté plainte, France Télévisions également. Xavier Roland, rédacteur en chef de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes avec Thibault Lefebvre.
Notre journaliste est vraiment meurtrie physiquement, le nez cassé, le visage tuméfié. Mais au-delà de la douleur physique, c'est surtout psychologiquement qu'elle est atteinte. Elle m'a dit qu'en 20 ans de carrière, elle n'a jamais connu ça. Il y a des reportages, quand on y va, on sait que c'est délicat, on met des dispositifs, on renforce l'équipe. On a eu récemment à Lyon plusieurs émeutes dans les quartiers la nuit, on renforce l'équipe, on n'envoie pas deux journalistes, on fait attention, etc. Mais là, on est en Ardèche, dans une petite commune, finalement, notre métier c'est quoi? C'est d'aller voir des gens qui se rassemblent parce qu'ils ne veulent pas porter le masque, on va leur donner la parole. Et vous avez un homme qui arrive et il la brutalise, c'est une atteinte au droit à l'information. France Télévisions ne va pas laisser passer ça, une plainte a été déposée, l'homme a été interpellé, il assume totalement son acte, qui est extrêmement lâche, arriver par derrière, mettre un coup de poing à une femme qui est en train de travailler. on s'interroge quand même sur notre capacité aujourd'hui à faire notre métier.
Xavier Roland, rédacteur en chef de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Du football et les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. La France affronte le Kazakhstan demain dimanche à Nur-Sultan après un match nul un partout décevant mercredi dernier face à l'Ukraine à Paris. Mais ce qui retient l'attention aujourd'hui, ce sont les messages envoyés à la FIFA et au Qatar par plusieurs équipes nationales, notamment l'Allemagne et la Norvège lors de ces qualifications pour le Mondial. Les joueurs norvégiens mercredi, puis le lendemain, le jeudi, les joueurs de l'équipe allemande ont revêtu au moment des hymnes des t-shirts avec des messages en faveur des droits humains sur et hors des terrains. Stéphanie Mora.
Cette semaine, alors que Norvégiens et Allemands arboraient des slogans comme « Respect sur et hors du terrain » ou « Droits humains », les Bleus avaient inscrit sur leur t-shirt d'échauffement un message contre le racisme. Une seule couleur, celle du maillot. Mais seraient-ils prêts à suivre le mouvement pour faire pression sur le Qatar ? Le capitaine Hugo Lloris est plutôt prudent.
C'est une bonne chose, les joueurs ont le droit de se manifester. En tout cas, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est insensible par rapport à tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut laisser également les politiques s'exprimer par rapport à ça. Et les grandes instances du football de regarder de plus près ces choses-là.
Pourtant, il se passe bien quelque chose sur la planète football. La FIFA, la Fédération internationale, prévoit des sanctions en cas de message politique pendant un match officiel. Mais, surprise, elle a annoncé qu'elle n'en prendrait pas contre la Norvège et l'Allemagne. Pour Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, l'institution n'a plus vraiment le choix.
Il ne faut jamais oublier, notamment dans le cadre de la FIFA ou du CIO, que les Jeux Olympiques et Paralympiques ou que la Coupe du Monde sont un peu leur pelouse d'or. Et le fait de ne pas tenir compte des évolutions de la société peut tout simplement les conduire à ruiner complètement le modèle économique de ces institutions-là.
Et les sportifs l'ont bien compris, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la parole sur le climat, l'égalité homme-femme ou le racisme.
Stéphanie Mora, notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir à tous.
Et nous partons pour Versailles visiter La Sirène, une bibliothèque numérique de référence avec le label du ministère de la Culture.
Versailles a procédé à la numérisation de son catalogue et développé une plateforme pour être visible par tous. La Sirène, c'est la partie patrimoniale du fond de sa bibliothèque. Écoutez Vincent Aiguelet, le directeur de cette bibliothèque.
C'est ainsi qu'est née La Sirène. La Sirène qui reprend d'ailleurs le nom d'un bateau qui se trouve dans nos collections, puisque donc notre bibliothèque ne conserve pas seulement des livres et des manuscrits, mais également toutes sortes d'objets hérités de son passé très riche. L'idée était effectivement de disposer d'un outil qui puisse à la fois être intuitif pour la personne qui va aller perdre quelques heures dessus, c'est-à-dire que vous allez retrouver du livre imprimé, mais aussi des manuscrits, des lettres, des correspondances, et bien entendu de l'iconographie, puisque nous avons de très belles collections iconographiques, gravures, estampes, dessins, etc., collectées pendant plus de 2 siècles.
Et l'un des plus beaux trésors qu'on y trouve, c'est le livre très richement illustré de Charles Perrault.
Alors, on parle de Charles Perrault, celui des contes, bien sûr, qui était en fait chargé de la politique artistique et littéraire de Louis XIV.
Alors, c'est vraiment l'une des plus belles pièces que nous conservons à cette heure. Cette course de tête et de bague est le résumé iconographique d'une grande fête donnée par Louis XIV en l'honneur de son cousin, le prince de Condé, et qui a été mise en scène à l'époque par Charles Perrault, notamment pour tout ce qui est costumes, qui sont absolument superbes. Et il y a eu 2 exemplaires colorisés à la gouache, et ce sont les peintres, les artistes de la cour qui ont participé à ce travail. Donc on a les maîtres graveurs, et ensuite après on a les coloristes qui sont rentrés. Mais donc ce sont bien sûr des couleurs d'époque.
Ce document n'existe qu'en 2 exemplaires. Il est d'une qualité et d'un état de conservation étonnant. Ce sont les dernières images de ce type de tournoi d'apparat où l'on montre son pouvoir et sa magnificence avec des équipes habillées différemment, l'équipe des Romains, des Perses, des Américains, des Turcs, chacune des équipes et chacun des cavaliers portant des déguisements absolument somptueux.
Ma vie connectée, Christine Siméon, a retrouvé sur franceinter.fr. Le temps printanier pour demain.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Pierre Hameau.
Demain, nous allons saluer le retour d'un puissant anticyclone centré sur la France. Prévoyez tout de même un voile épais de nuages d'altitude du côté du Nord-Pas-de-Calais. Et partout ailleurs, le soleil va briller généreusement tout au long de la journée. À noter quand même la présence de nuages bas et de quelques bancs de brouillard vers la Côte d'Azur et la Corse se dissipant en cours de matinée. Côté température, les minimales en fin de nuit seront souvent fraîches. De faibles gelées seront observées en milieu rural dans le Nord-Est et le Centre-Est. Les maximales l'après-midi seront en nette hausse avec des valeurs comprises entre 14 et 23 degrés du nord au sud. Dans le détail, on attend 14 degrés à Brest, Cherbourg et Lille, 16 à Nancy, comptez 17 à Paris comme à Nantes, Tours et La Rochelle, 18 à Lyon et Marseille, 19 à Limoges. On dépassera la barre des 20 degrés dans le sud-ouest avec 21 à Biarritz et Toulouse, 22 à Auch et jusqu'à 23 degrés à Bordeaux.